Enregistré. Voilà.
Ça commence, voilà. Je lance l'enregistrement, ne vous inquiétez pas. Alors, peut-être, juste pour qu'on se remette dans le bain de cette histoire qui se déploie, voilà, maintenant pour la troisième semaine consécutive. Bon, je ne sais pas si vous en avez l'impression ou pas, mais enfin, bon, quand même, on avance, hein. Enfin, je veux dire que c'est peut-être pas trop mal que. Qu'au milieu, on arrive à peu près au vif du sujet. Donc là, juste recommencer par dire exactement ce qui me semble que l'on avait un petit peu établi. Là, on avait commencé, en tout cas moi j'ai commencé comme ça, à partir de la résurrection des morts et de ce qu'elle pouvait signifier. Ensuite, je crois que j'avais pas mal développé le fait que les martyrs, les premiers martyrs, ont été recueillis au nom même de cette foi en la résurrection des morts. Voilà. Ça va quand même être encore un peu le fil directeur aujourd'hui, parce que il y a bien des choses qui sont faites à l'époque et qu'on, d'une certaine manière, on continue de faire, qui sont ancrées en fait sur cette foi-là. Après, il va y avoir un deuxième point théologique qui va être ajouté aujourd'hui, mais qui est en fait lié, qui est le dogme de la communion des saints. Donc, je crois à la communion des saints, à la résurrection des morts. Donc les deux dogmes allant en fait ensemble. Là, donc c'est un peu les deux points un petit peu névralgiques. Bon, je vous avais dit que on a été donc du coup venu à la fois construire des monuments pour les martyrs, que dans le même temps ces monuments étaient devenus des lieux de culte et des lieux d'inhumation. Il me semble que c'est à peu près là où j'en étais arrivé. Si je ne me trompe pas. Alors, ce que maintenant je voudrais poursuivre avec vous, eh bien, c'est en fait précisément comment on passe de ça à un culte des reliques. Parce que pour le moment, on n'est pas tout à fait encore dans un culte des reliques. On est très clairement dans un culte des saints, mais pas tout à fait dans un culte des reliques. Alors, peut-être que de rester encore aujourd'hui au 4e, 5e, 6e siècle, et la semaine prochaine, on fera un bond en avant dans le Moyen Âge, mais parce qu'en fait, les temps fondateurs sont peut-être de plus loin les plus importants. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, ça marche à partir en fait de cette pratique, qui est que lorsque j'ai un certain nombre de tombeaux avec des martyrs ou des gens reconnus comme tels, eh bien, je peux aller les visiter ces tombeaux. C'est précisément à ça que sert cette complexe, vous voyez. Donc du coup, si je visite les martyrs, eh bien, je peux avoir un début de pèlerinage. Alors ces pèlerinages sont attestés en fait de manière assez ancienne. Bon, je vous en donne un exemple parmi d'autres, mais c'est juste pour être en place. Peut-être avez-vous entendu parler de ce grand père de l'Église qui est Saint Jérôme. Saint Jérôme raconte, alors c'est un compliqué Saint Jérôme parce que pour avoir ce qu'il raconte, il faut lire en fait toutes ses œuvres qui sont uniquement des commentaires de l'écriture pour l'essentiel et souvent il y a des petites notes biographiques au milieu de ces commentaires de l'écriture à des endroits où en fait on ne les attend absolument pas. Donc ça demande un peu une étude un petit peu minutieuse de cette affaire. Et qu'est-ce que raconte Saint Jérôme? Il raconte que lorsqu'il faisait ses études à Rome avant qu'il se fâche avec le pape, eh bien tous les dimanches il allait au tombeau des martyrs. Tous les dimanches, ça veut dire que Saint Jérôme quittait le centre de Rome, moi je ne sais pas où il habitait, mais enfin bon, peu importe, et qu'il se rendait sur les tombeaux des martyrs, que ce soit sur la colline du Vatican pour le tombeau de Saint-Pierre, que ce soit sur la Via Appia pour le tombeau de Saint-Sébastien, etc., etc. Et que du coup, il avait cette pratique de pèlerinage qu'il le partageait avec bien d'autres personnes. Donc ça, c'est à peu près là où on en était arrivé. Aujourd'hui, je voudrais passer à un deuxième grand mouvement, qui est le mouvement exactement inverse. Le premier mouvement qu'on avait jusqu'à présent, c'est j'ai un bonhomme qui est martyr, par exemple Saint Laurent, par exemple Sainte Agnès, ou qui vous voulez, à l'issue de son martyre, je recueille ses ossements et je finis par lui construire un mémorial. Ça, c'est le premier mouvement. Eh bien, le deuxième mouvement inverse, c'est je sais qu'il existe un martyr et je me demande où est-ce qu'on a mis sa dépouille. Ça veut dire que je vais chercher son corps. Vous voyez la différence? Dans le premier cas, j'ai une tradition qui est très forte. C'est ce qui fait qu'on n'a aucune raison de douter du lieu de l'inhumation de Pierre, qu'on n'a aucune raison de douter du lieu de l'inhumation de Paul, etc., etc. Là, vous voyez, pour Pierre, par exemple, le doute, ce n'est pas du tout que sa tombe soit à cet endroit-là. Le seul point de doute qu'il y a et qui est mineur, c'est que le bonhomme qui soit actuellement dans la tombe soit le même que celui qui y était au moment de l'inhumation en 64 ou en 67. C'est le seul point de doute. Mais en revanche, le fait que ça soit l'endroit et pas un autre, ça, on en est sûr. Mais ça, ça vient de ce que vous avez une tradition continue. En revanche, vous avez bien d'autres bons hommes qui sont martyrs, qui, eux, on ne sait pas où ils sont. Et alors, on va avoir tout un mouvement qui va consister à chercher le corps des martyrs. Chercher le corps des martyrs, ou parfois les trouver par hasard. Ça arrive aussi. Alors, en histoire de l'Église, on a un terme technique pour dire cela. Mais le terme technique est très piégé en français. Parce que ce terme technique, ça s'appelle invention. Donc, quand j'invente une relique, ou quand j'invente le corps d'un saint, mais pour le moment, je n'ai que des martyrs. On aura d'autres saints plus tard, mais pour le moment, je n'ai que des saints martyrs. Quand j'invente le corps d'un saint, ça ne veut pas dire que je le fabrique. Ça veut dire que je le découvre, dans le sens latin du terme. En fait, le verbe invenio en latin veut dire trouver. Le problème, c'est qu'il a donné inventer en français. Peut-être parce que l'inventeur est celui qui découvre quelque chose qui était sous-jacent ou potentiellement existant. Bon, il y a un soubassement philosophique à cette question du vocabulaire, en fait. Mais bon, le problème, c'est que du coup, évidemment, si moi je vous dis on invente les corps, vous pensez que je vais me prendre n'importe quel ossement et je vais décréter que celui-là est un saint. Alors que ce n'est pas tout à fait comme cela que ça fonctionne. Alors, invention des corps saints. Eh bien, ça commence à proliférer au IVe siècle. Quand je dis que ça prolifère, ça veut dire qu'il y en a de plus en plus, en fait. Alors, premier exemple. Ça, je vous ai mis le texte d'Amase Ier. C'est le texte numéro 4. Je reviendrai sur l'invention du corps de Saint-Étienne tout à l'heure parce que c'est infiniment plus complexe. Donc, le pape d'Amase. Pape à Rome, donc je vais vous mettre tout de suite ces dates, 366-384. Je crois que je l'avais brièvement évoqué la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons. Le pape d'Amase est vraiment l'un des papes qui a le plus travaillé au culte des saints à Rome. Celui qui a constitué les grands monuments pour les saints un peu partout autour de la ville de Rome. Et bien du coup, c'est lui qui, en particulier, est l'inventeur des corps Pierre Marcellin. Alors, Pierre l'apôtre, Pierre le martyr, Marcellin également martyr, qui sont fêtés ensemble. Ne me demandez pas quand, j'en sais rien. Je le sais qu'on le voit arriver dans le calendrier tous les ans, mais enfin, je ne me rappelle pas quand c'est, peu importe. Et alors, ce qui est assez intéressant, et c'est le texte que je vous ai mis, alors, comme je suis allé trop vite, vous l'avez en deux exemplaires, mais ce n'est pas grave. Il y en a un pour les gens qui ont mal aux yeux et l'autre pour les gens qui préfèrent le petit. Damas Ier, c'est aussi le pape poète. Donc, le pape poète, alors, on apprécie ou non la poésie, peu importe, mais c'est celui qui a écrit un tas de poèmes ou d'épitaphes pour les saints martyrs. Et alors, il a mis sur le tombeau de Marcellin et de Pierre, là, l'épitaphe de Marcellin et de Pierre. Et alors, qu'est-ce que vous lisez ? C'est très court, donc je vais le lire avec vous. Marcellin et Pierre, écoutez le récit de votre triomphe. Dans mon enfance, le bourreau lui-même me raconta ce qui suit. Le persécuteur acharné avait ordonné de vous trancher la tête au milieu des broussailles pour que leur tombeau ne soit pas retrouvé. Joyeux, vous avez vous-même creusé la fosse. Après avoir un moment reposé sur cette blanche sépulture, vous avez averti Lucile, lui demandant de faire transférer vos restes. Elle les ensevelit alors sur la Via Labicana, une des grandes routes qui partent de Rome. Alors, c'est assez intéressant ce petit texte, hein, parce que qu'est-ce qu'on comprend ? Dans mon enfance, dit Damase Ier, le bourreau lui-même me raconta ce qui suit. Ça veut dire que Damase affirme que lorsqu'il était petit, il a rencontré le bourreau de Marcelin et Pierre. Donc là, on est dans un cas où Damase se fait complètement historien. Vous voyez, ou en tout cas, on a quelque chose qui, au niveau rationnel, est quand même assez sûr. C'est-à-dire, j'ai rencontré quelqu'un qui a été le témoin privilégié du martyre de Marcelin et Pierre, puisqu'il est le bourreau lui-même. Si c'est le cas, probablement qu'il faut sous-entendre que ce bourreau ensuite s'est converti. Chose qui est assez fréquente, en fait, hein, dans les histoires des martyrs. Mais bon, c'est pas mon sujet, c'est autre chose. Donc le bourreau lui-même raconte ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait le bourreau de Marcelin et Pierre? Donc si je prends les dates, ça veut dire que l'on est dans les derniers martyrs du IVe siècle. Voyez, parce que si Damase Ier est pape de 366 à 384, ça veut dire qu'il est petit au début du IVe siècle. Donc ça veut dire que le bourreau, lui, il est plutôt à la fin de sa vie. Donc on est dans les martyrs, soit de la persécution de Dioclétien, c'est le plus probable, dans les années 280 et quelques. Alors qu'est-ce que nous dit ce bourreau? Que comme bien des bourreaux de l'époque, on cherche, ah, et je vous l'ai montré avec Saint Polycarpe, à faire en sorte que les chrétiens ne puissent pas récupérer le corps. Donc du coup, on trouve un stratagème, trancher la tête de Marcelin et de Pierre au milieu des broussailles. Donc ça veut dire, dans un endroit où il sera difficile, voire impossible, de récupérer le corps pour l'honorer ou lui rendre les honneurs funèbres. Donc les martyrs, eux, obéissent. Et ensuite, vous vous retrouvez avec un moment de merveilleux. Après avoir un moment reposé sur cette blanche sépulture, alors, ne me demandez pas pourquoi la sépulture est blanche, j'en sais rien en fait. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais vous avez averti Lucile. Bon, Marcelin et Pierre sont morts. Mais on nous dit que mystérieusement, ils ont averti une femme prénommée Lucile en lui disant, creusez par ici, et c'est ici que sont nos restes. La Lucile en question, manifestement, obéit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère les restes, donc quelque chose comme 50, 60, 70 ans après le martyr, et elle transfère les restes dans une nécropole, soit la Via Labicana. D'accord? Comment ça se passe? Et Damase Ier arrive plus tard, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il construit un monument à Marcelin et à Pierre sur la base de cette histoire. Et c'est comme ça que vous voyez la conjonction du rationnel et du merveilleux. Le rationnel, je sais que Marcelin et Pierre sont martyrs et qu'on a tout fait pour que leur tombe, pour que leur corps ne soit pas retrouvé. Merveilleux, les saints eux-mêmes ont averti où ils étaient. Une femme qui a fait ce qu'elle devait. Peut-être que dans les faits divers qui agitent la France depuis maintenant bien un an, on retrouvera le corps de cette jeune femme disparue depuis plus d'un an, et peut-être de cette manière-là, puisque si elle est enterrée dans les broussailles, peut-être un jour elle avertira elle-même où est-ce qu'elle se trouve. Mais bon, cela n'est pas ma question. Alors, vous vous retrouvez avec, comme ça, un cas exemplaire d'invention de martyr, avec un tombeau, un culte. Alors, vous voyez, c'est là où la position de l'historien chrétien est délicate, en fait. Moi, je n'ai pas beaucoup de problèmes à faire confiance au début. Quand bourreau raconte qu'il a fait tout ceci, tout cela, c'est raisonnable. Comme chrétien, je n'ai pas beaucoup de problèmes à imaginer qu'un événement merveilleux ait pu avoir lieu, prévenant que la tombe se trouvait plutôt ici que plutôt que là. Pourquoi pas? La difficulté, c'est que, comme historien, j'aurais un peu de mal à le faire avaler. Voyez? C'est là où la rencontre de l'histoire et de la foi est difficile, en fait. Mais ça, c'est un problème qu'on a dès qu'on touche à l'histoire de l'Église. Comme avait dit un jour mon maître, le professeur Olivier Chaline, au cours d'un colloque, en disant c'est une histoire, une querelle d'historien, en fait, en disant, un de ses interlocuteurs lui disait, mais enfin bon, vous ne pouvez pas croire à ces Cambrelodènes. Il lui avait dit, bah, mon problème, c'est que moi, j'étudie les gens qui ont la foi et qui vivent dans cet univers. Comment moi je fais? Aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'étudier des gens qui ont la foi en me supposant que moi, je ne dois pas avoir la foi. C'est là où c'est difficile. Comment je fais la part entre la crédulité et la possibilité que Dieu intervienne réellement sur cette terre de manière merveilleuse. Je ne dis pas miraculeuse parce que ça, ce n'est pas un miracle, c'est juste quelque chose de merveilleux. Vous voyez? C'est délicat quand même, en fait. Mais bon, et ce problème-là, on va l'avoir avec toutes les histoires des saints et avec toutes les histoires de l'invention du corps des martyrs et ensuite des autres saints. Bon. Alors, cette histoire d'invention des reliques, vous en avez des milliers. Autre exemple, je vous mets parce qu'il est assez important dans l'histoire italienne, c'est l'invention du corps de Saint-Gervais et de Saint-Protais. Bon, on n'est plus trop. Enfin bon, Saint-Gervais et Saint-Protais, ils ont été découverts par qui ? Bien, par Saint-Ambroise de Milan en 386, au cours du coup, de son épiscopat milanais. Vous voyez, quelque chose comme ça, ça nous dit bah, que Ambroise découvre le corps de ces deux martyrs. Alors lui, c'est le procédé un petit peu différent. C'est, il découvre deux corps et il comprend mystérieusement qu'il s'agit de martyrs. Et après enquête, il comprend que c'est le martyr de Saint-Gervais et de Saint-Protais. Et du coup, il érige une église en l'honneur de Saint-Gervais et de Saint-Protais, en tout cas un lieu de culte. D'accord ? Alors, pour un peu plus précisément, là-dedans, je voudrais qu'on lise attentivement le texte 3. Il est long, qui est l'invention des reliques de Saint-Étienne. Parce que là, vous tombez sur un cas intéressant. Saint-Étienne, il est affirmé au nom de la Bible qu'il s'agit du premier des martyrs. Donc c'est le titre qu'on lui donne de Saint-Étienne, proto-martyr. Premier des martyrs. Bon. Bon. Tout martyr, martyr connu de manière exemplaire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7. Exemplaire parce que, si vous vous rappelez du martyr de Saint-Étienne, c'est le cas de martyr sans mélange. Parce que quelle est la cause du martyr de Saint-Étienne ? C'est lorsque Saint-Étienne, vous voyez, Saint-Étienne, il fait un grand discours aux autorités juives de Jérusalem. Le contenu du discours est globalement le suivant. Bon, vos pères ont fait n'importe quoi et vous n'êtes pas mieux. Enfin, ce discours est d'une banalité affligeante. C'est le discours des prophètes. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Que les pharisiens grincent des dents parce que ça ne leur fait pas plaisir. Mais en fait, pas plus que ça, en fait. Parce que c'est le discours de tous les prophètes depuis le début des prophètes, d'affirmer que les pères étaient absolument abominables et que leurs successeurs sont pires. En revanche, qu'est-ce qui fait basculer vers le martyr ? C'est lorsque Saint-Étienne est, nous dit, rempli de l'Esprit Saint, acte 7, et qu'est-ce qu'il dit ? Je vois, et qu'est-ce qu'il voit ? Le Fils de l'homme siégé à la droite du Père. Et ça, c'est épouvantable pour un juif, puisque c'est introduire la pluralité en Dieu. Et en plus, affirmer que le Christ siège à la droite du Père. Bon, j'insiste sur cette affaire-là, parce que c'est la cause du martyr de Saint-Étienne. Cause du martyr de Saint-Étienne, puisque juste après, on nous dit que là, les juifs sont pris de fureur, qu'ils prennent des pierres et qu'ils lapident Saint-Étienne, châtiment accordé au blasphémateur. Donc, Saint-Étienne est martyrisé au nom de sa foi. Parce que je vous rappelle qu'il est assis à la droite du Père, fait partie du credo. Plus intéressant, parce que okay, le credo n'était pas écrit à l'époque, plus intéressant. Acte 7 est profondément lié au discours de Saint-Jean. Ça, c'est un fait auquel on prête peu attention. Que acte 7, c'est l'écriture narrative du discours théologique de Saint Jean au chapitre 16, début du chapitre 16. Qu'est-ce qu'on nous dit au début du chapitre 16 ? Saint Jean nous dit, vous serez l'Esprit Saint, ne vous inquiétez pas de ce que vous devrez dire, l'Esprit Saint vous assistera lorsque moi, je serai retourné auprès du Père. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec Saint-Étienne. Assisté par l'Esprit Saint, qui, lorsque le Christ siège à la droite du Père. Qui est la preuve de la victoire du Seigneur. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Un vrai martyr. Mais je dis ça parce qu'il y a quelques martyrs qui sont parfois un petit peu plus mélangés. Les causes humaines sont beaucoup plus liées, mélangées avec les causes religieuses. Saint-Étienne, martyr, exemplaire, acte 7. Ah. Ben oui, mais sauf qu'ensuite, tout le monde se fiche complètement de savoir où est le corps de Saint-Étienne. Et les actes des apôtres ne nous le racontent pas. On nous raconte juste qu'il y a un bonhomme du nom de Saul qui est à côté des vêtements de Saint-Étienne. Et d'ailleurs, lesquels vêtements ne deviennent même pas des reliques. Alors que là, on aurait des superbes reliques de catégorie 2, objets ayant appartenu au saint. Donc, ce n'est pas le problème dans le Nouveau Testament. Donc, ça veut dire que je me retrouve avec le martyr de Saint-Étienne et qui disparaît quelque part dans la nature. Supposons que son corps, ayant été récupéré par les premiers chrétiens, et qu'il ait été reçu une sépulture quelque part. Mais ça, c'est une pure supposition. Le récit des Actes des apôtres ne le raconte pas, puisque Saint-Luc ne s'intéresse pas à la question. Vous voyez, c'est là où je remets l'histoire, en fait, dans la théologie. C'est que moi, je peux faire un développement théologique sur le culte des saints, sur la communion des saints ou la foi en la résurrection des morts, mais en même temps, cette question-là ne se pose pas au premier siècle. Mais faites attention, c'est pas parce que la question ne se pose pas qu'elle est fausse. Si vous avez fait avec le CIF un peu de théologie, vous avez dû voir que le dogme a un développement. Et s'il a un développement, c'est précisément qu'il s'enrichit au fur et à mesure. Alors peut-être que parfois, je vous dépoussiérer un peu, mais n'empêche qu'il s'enrichit. C'est le mouvement fondamental, mais comme un arbre s'enrichit au fur et à mesure. Alors, je commence à relire ce texte de l'invention des reliques de Saint-Étienne. Alors, de quoi s'agit-il? Nous sommes, alors, juste pour vous préciser les choses, nous sommes en 415, donc sous l'épiscopat du patriarche Jean II de Jérusalem. Peu importe. Et lui, pontife de 386 à 417. Début 5e siècle. Le récit est connu par une lettre, probablement authentique. C'est ça qui est important, parce que pour le moment, je ne suis pas dans des histoires qu'on raconte 5 ou 6 siècles après. Parce que alors, si en plus mon histoire est racontée 5 ou 6 siècles après, ça devient encore plus compliqué de juger l'authenticité. Là, j'ai une histoire racontée par une lettre apparemment authentique, pour autant qu'on puisse en savoir quelque chose, écrite par un certain Lucien. Alors, il suffit de lire le début de la lettre. Je vais passer un peu de temps dessus, hein, donc soyez patients. Qu'est-ce qu'on dit? Lucien, par la miséricorde de Dieu, pauvre et moindre des hommes, prêtre de l'Église de Dieu, dans le village de Capharnaüm, au territoire de Jérusalem, à la Sainte Église et à tous les saints qui sont en Jésus-Christ, dont le monde entier salue en notre Seigneur. Alors là, ça s'appelle une lettre encyclique. Ce n'est pas une lettre adressée à un bonhomme quelque part. Donc, Lucien écrit une lettre à tout le monde. Tous les saints. Alors, pour le moment que vous le savez, les saints, c'est le nom dont les chrétiens, que les chrétiens se donnent. Encore au 5e siècle. Encore au 5e siècle. Je crois que si les chrétiens actuels avaient plus de foi qu'ils n'en ont, ils s'appelleraient les saints. Ils ne commenceraient pas par dire, oh là là, non, 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 moi je suis très très loin du Seigneur. Parce que ça, c'est douter de la réalité du baptême et de la confirmation. Donc c'est un péché grave, en fait. Alors, je continue. À tous les saints qui sont en Jésus-Christ dans le monde entier, salut en notre Seigneur. Donc, Lucien se dit prêtre de l'Église dans le village de Capharnaüm. Bon, où est le village de Capharnaüm? Bon, bah, si ça vous amuse de le savoir, c'est aujourd'hui à quelque chose comme, allez, 25, 15, entre 15 et 20 km de Jérusalem, au sud de Jérusalem. Donc, enfin, c'est très facile. Pour ceux qui connaissent bien la Terre Sainte, on est à côté de la ville de Shemesh. Shemesh en hébreu, ça veut dire la maison du soleil. Donc, à côté de la maison du soleil. Là, il y a en fait aujourd'hui, juste à côté de cet endroit-là, deux monastères des frères et des sœurs de Bethléem. Un monastère double, un monastère de frères et un monastère de sœurs qui sont dans cet endroit-là. Donc ce village-là, en arabe, parce que le nom hébreu, évidemment, n'a rien à voir avec le nom arabe, s'appelle Kfar Kamala. Encore aujourd'hui, d'une manière un peu déformée. Mais bon, Kfar, au sens aujourd'hui, c'est Kfar Gimel. Ah, mais si vous parlez l'hébreu, l'araméen ou l'arabe, Kfar Kamala, ça veut dire quoi? Kfar, ça veut dire le village. Son Kfar, village. Kamala, de Kamala. Donc, il est le prêtre du village de Kamala. Et qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai cru nécessaire de faire connaître à votre direction en Jésus-Christ la triple vision qui m'est apparue de la part de Dieu au sujet de la révélation des reliques du bienheureux et glorieux proto-martyr Étienne, premier diacre du Christ, de celle de Nicodème, dont il est parlé dans les évangiles, ainsi que de Gamaliel, mentionné dans les Actes des apôtres. Rien que ça. Donc, Lucien nous dit, moi, j'ai reçu une vision. Donc, on commence déjà par le merveilleux. C'est le mouvement contraire de celui qu'on avait avec notre ami Babaz. Enfin, remarquez quand même qu'on est à peu près à la même époque. Hein. Moi, ça me fascine, hein, tous ces gens qui découvrent des reliques partout au même moment, en fait. Hein. Au sujet de la révélation des reliques. Alors, reliques en latin, c'est reste, vous savez. Ça veut dire dépouille. C'est juste ça, ce que ça veut dire. Alors, ce qui est fort, c'est qu'on a à la fois Étienne, Nicodème et Gamaliel. C'est pour ça que je dis rien que ça. Alors, Étienne, j'en ai déjà parlé. Nicodème, je vous rappelle, c'est celui que nous avons en Jean 3 et en Jean 20, en Jean 19, pardon. C'est-à-dire celui qui est à la fois vient trouver Jésus de manière nocturne, et celui qui ensuite donne une sépulture décente à Jésus, après l'avoir fait descendre de la croix. Gamaliel est celui qui apparaît dans les Actes des apôtres, on raconte de Gamaliel en fait la même chose que Nicodème. Sauf que Nicodème, c'est à propos de Jésus, et Gamaliel, c'est à propos des apôtres. Quelle est l'histoire? L'histoire est de dire pourquoi vous voulez absolument arrêter le christianisme naissant? Parce qu'en fait, si ça vient de Dieu, vous n'y arriverez pas. Bon, si ça ne vient pas de Dieu, de toute façon, ça va s'effondrer tout seul. Donc, ce n'est pas la peine de vous exciter. Et rappelez-vous la réponse des autorités juives à Gamaliel. Toi aussi, tu es devenu galiléen? Toi aussi, tu es devenu chrétien? Je reviendrai sur cette question un peu plus tard. Alors, quelle est la première vision de Lucien? Eh bien, lisons la suite du texte. Le jour donc de la Parasève, c'est-à-dire un vendredi, le 3 décembre, sous le 10e consulat d'Honorius et le 6e de Théodose Auguste, ça c'est le nom des empereurs, je m'étais endormi à la nuit tombante, sur ma couche, dans le saint lieu du baptistère, où j'avais l'habitude de coucher pour garder les objets servant au ministère. Bon. Comprenons donc qu'un soir de décembre, c'est moi qui ai traduit en décembre, parce que si je vous avais dit le jour des ides de machin, ça aurait été un peu pénible. Le prêtre Lucien se couche dans le baptistère. Alors manifestement, c'est ce qu'il a à le faire tout le temps. Donc il n'a pas de chambre, c'est l'époque bienheureuse où les presbytères n'existent pas, ça supprime quelques problèmes matériels. Et il dort dans le baptistère pour garder les objets qui servent au ministère, c'est-à-dire les objets du culte, ayant peur qu'on les vole, en les considérant comme précieux. Bon. À la troisième heure de la nuit, bon, quand on est en décembre, la troisième heure de la nuit, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose comme 20 heures. Hein. Bon, après, à l'époque, on se couche tôt, peut-être plus qu'aujourd'hui. Qui est le premier quart de garde d'éveil, je tombais dans une sorte d'extase, en demi-sommeil. Ah, c'est intéressant, hein, parce que dans les Actes des Apôtres, on en a eu des gens qui sont tombés en extase comme ça pendant leur sommeil. Je ne sais pas si vous vous rappelez Saint-Pierre. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut peut-être pas commencer par jeter à la poubelle cette affaire. Ou alors, on dit que la vision de Pierre à Jaffa est du grand n'importe quoi. Mais bon, moi, je ne sais rien. Et je vis un vieillard, à la taille élevée, donc un grand bonhomme, prêtre plein de dignité, aux cheveux blancs, à la barbe longue. Alors ça veut dire il est sage. Si j'ai une grande barbe, c'est que je suis sage. Vous remarquez que moi, je suis encore très très loin de la sagesse. Revêtu d'une étole blanche, ornée de glands d'or, avec une croix au milieu. Le fait que ce bonhomme ait une croix au milieu de son étole assure qu'il s'agit d'un chrétien et pas d'un démon. Parce que dans ce monde merveilleux, quand on a des extases au milieu de son sommeil, il peut quand même se passer bien des choses. Il tenait une crosse d'or à la main. Il s'approcha de moi et se plaçant à ma droite, il me toucha de sa crosse d'or. Puis m'appelant trois fois par mon nom, Lucien, 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 il me dit en grec, voilà. Rends-toi dans la ville d'Elia, qui n'est autre que Jérusalem, et dis au saint homme Jean, qui en est l'évêque, ces paroles. Donc, le bonhomme est réveillé en milieu de la nuit, enfin au début de sa nuit plutôt, par quelqu'un qui est habillé comme un prêtre ou quelque chose comme ça. Enfin, pour le moment, ce n'est pas identifié, hein. Et il doit se rendre séance à Jérusalem pour aller trouver l'évêque du lieu, donc l'autorité la plus haute, pour lui dire ces paroles. Combien de temps serons-nous retenus enfermés? Et tarderez-vous à nous ouvrir les portes? Je lis jusqu'à la fin du paragraphe. Or, c'est sous ton épiscopat que nous devons être révélés. Ouvrez-nous sans retard le tombeau où nos restes ont été déposés avec soin, afin que par nous, Dieu, son Christ et son Esprit Saint, ouvre la porte de leur clémence sur le monde, car les chutes nombreuses dont ce siècle est témoin, tous les jours, le mettent en grand danger. D'ailleurs, c'est beaucoup moins de moi que des saints si dignes de tout honneur qui sont avec moi que je me préoccupe. Alors, ici où? Le bonhomme qui est habillé comme un prêtre, enfin d'ailleurs peut-être même comme un évêque, puisque s'il a une crosse, c'est qu'il a quand même la dimension pastorale, dit qu'actuellement il est enfermé dans un tombeau. Combien de temps serons-nous retenus enfermés? Alors, la difficulté de la pathologie, ce genre de texte, c'est qu'il faut toujours avoir dans la tête les renvois évangéliques. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose des histoires de tombeaux enfermés avec des gens enfermés à l'intérieur, mais moi j'en connais au moins deux. Le premier tombeau que je connais, c'est celui de Lazare. Et lorsque Jésus ouvre le tombeau, qu'est-ce qu'il lui dit? Sors dehors. Bon, c'est un peu ridicule à dire en français, mais enfin en grec, c'est comme ça. Et le deuxième que je connais, c'est celui de Jésus, qui est fermé et que précisément aucun homme n'arrive à laisser fermer, puisqu'il devient ouvert. Et paf, je retombe sur la foi en la résurrection. Ou résurrection des morts. Ouvrez la porte du tombeau. Alors c'est intéressant ça, parce que ça veut dire que le tombeau, que le mort enfermé dans son tombeau est réellement enfermé. Donc que le saint ne doit pas être enfermé dans son tombeau, mais que le saint est au contraire fait pour avoir un tombeau ouvert. Ben, c'est normal, puisqu'il est vivant. Je vous rappelle, hein, enfin, je pars de ce principe-là que pour nous c'est clair, hein. Le saint n'est pas celui qui a un diplôme de bonne conduite. Le saint est celui qui aujourd'hui est vivant avec Dieu. Et les gens du 5e siècle en ont une foi beaucoup plus vive que la plupart des chrétiens actuels, qui ne voient dans les saints que des héros passés, alors qu'ils ne voient pas que le saint est vivant avec Dieu. Alors, comment ça peut-il? C'est sous ton épiscopat que nous devons être révélés. Alors, théologie de l'histoire, on a été enfermés, en fait, c'était prévu. Et on va finir par revenir. Parce que ça, c'est une manière d'expliquer pourquoi tout d'un coup on se manifeste. Parce que bon, après tout, si, puisqu'on sait qu'il, moi je sais qu'il va s'agir de Saint-Étienne, si ça fait 4 siècles qu'il est dans, presque 4 siècles qu'il est dans le tombeau, après tout, pourquoi maintenant? Enfin, on peut attendre un peu plus longtemps aussi. Ben non, c'est que maintenant ça doit se passer. Et pourquoi donc? Ouvrez-nous sans retard le tombeau où nos restes ont été déposés avec soin. Donc l'idée de l'invention du corps des martyrs, c'est que les restes des martyrs ne sont pas faits pour être enfermés dans un tombeau. Ils sont faits pour être connus du monde. Donc il ne peut pas y avoir en quelque sorte de tombeau anonyme pour les saints martyrs. Je conclue. Pourquoi donc? Afin que par nous, Dieu, son Christ et son Esprit Saint ouvrent la porte de leur clémence sur le monde. Ah, qu'est-ce qui est affirmé ici, finalement, d'une manière très simple? Le pouvoir d'intercession des saints. Est-ce que vous voyez la dimension très concrète de l'affaire, ou très incarnée, en fait? Parce que on pourrait se dire, bah oui, mais bien sûr, les saints, ils intercèdent pour nous, ils font que ça tout le temps. Ah, mais oui, mais là, ce qu'on me dit, c'est que le fait que j'ouvre le tombeau où ils sont et que je récupère leurs dépouilles ou leurs restes aura un pouvoir d'intercession plus grand. Ça, c'est une dimension d'incarnation. Je fais le parallèle avec l'Eucharistie. Vous voyez, quelque part, le chrétien qui dit, j'ai pas besoin de l'Eucharistie pour mener ma vie avec Dieu. Pourquoi pas? Moi, je veux bien croire que Dieu le nourrisse directement. Ça ne me pose pas beaucoup de problèmes. Sauf qu'il lui manque complètement la dimension incarnée. C'est-à-dire que sa vie spirituelle risque d'être une vie qui est uniquement psychologique, qui n'irrigue pas la totalité de son corps. C'est exactement le même phénomène qu'on a ici, en fait. C'est-à-dire de dire, OK, je pourrais me passer des reliques, en fait. J'en ai pas besoin. Au sens où j'ai pas besoin, en tout cas, on n'a absolument pas besoin des reliques pour avoir l'intercession des saints. Mais la relique augmente en quelque sorte par son caractère incarné. En tout cas, c'est ce que dit le vieillard qui s'adresse à Lucien. Pour que la clémence soit manifestée sur le monde, c'est-à-dire que des bienfaits en arrivent sur le monde. Alors, je m'occuperai un peu plus tard aujourd'hui probablement de cette question-là parce qu'elle est assez importante, de la clémence sur le monde. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs? Les chutes nombreuses dans ce siècle et témoins tous les jours le mettent en grand danger. Alors évidemment, quand on est historien, on va se dire, c'est quoi les chutes nombreuses dont il s'agit? Ah, 415. La première chute dont il est question est une histoire de foi. Parce qu'on est en plein dans les hérésies christologiques. Alors, c'est-à-dire, OK, en Orient, en tout cas dans cette partie-là de l'Orient, l'arianisme, l'hérésie d'Arius, c'est terminé, à peu près, mais on a toutes les autres qui arrivent. Je ne sais pas si je vous rappelle, le Concile d'Éphèse, c'est 431. Donc on est en plein, en fait, dans la discussion. Alors, bon, excusez-moi pour faire un détour par la christologie, mais là, on est en plein la discussion sur le monophysisme, c'est-à-dire sur les deux natures du Christ. Savoir si le Christ est vraiment homme, parce que la victoire sur l'arianisme avait affirmé que oui, c'est évident, le Christ est vraiment Dieu. Coup de balancier, ah, mais alors ça veut dire qu'il n'est pas vraiment homme. Et le début du 5e siècle, tout particulièrement en Terre Sainte, c'est le grand débat sur le monophysisme. Je dis tout particulièrement intéressant, c'est-à-dire que la moitié des monastères de Jérusalem sont monophysites. Donc, évidemment, vous vous trouvez en plus avec un problème théologique. C'est-à-dire que l'invention des reliques de Saint-Étienne est aussi liée à ce problème-là. Alors, c'est intéressant parce que, précisément, je trouve des reliques au moment où j'ai besoin de l'incarnation. Je ne crée pas, si vous voulez, une spiritualité complètement désincarnée. J'aurai un Christ complètement désincarné. Eh bien, de la même manière que je ne dois pas avoir un Christ désincarné, je ne dois pas avoir non plus un saint désincarné. La logique est la même. Ça va, c'est à peu près clair pour vous, ce système-là? En quelque sorte, je raisonne avec les saints de la même manière que je raisonne avec le Christ. C'est un peu ça l'idée, en fait. Alors, je continue. Parce que, bon, peut-être que je vous le raconterai, ça dépend, mais lorsque les reliques de Saint-Étienne auront été découvertes, ça va intervenir énormément dans la querelle monophysite à Jérusalem. Donc, l'affaire est liée. Et puis, n'oubliez jamais que quand un bonhomme raconte une histoire, c'est pas du journalisme. Je veux dire par là que lorsque Lucien raconte la triple vision et ce qui s'ensuit, c'est après coup. Donc, on sait qu'on est en 415, mais lui, il écrit plus tard. Est-ce que c'est en 416 ou en 430? Eh bien, ah, ça, c'est une autre question. Alors, je continue. Le bonhomme qui s'exprime, ce grand vieillard, dit: c'est beaucoup moins de moi que des saints si dignes de tout honneur qui sont avec moi que je me préoccupe. Alors, ça, c'est évidemment l'appel du pied, parce que quand je dis ça, forcément, moi, si moi j'ai cette vision-là, je me dis: mais en fait, t'es qui, en fait? Et tu parles de qui? Parce qu'en fait, je comprends rien, c'est pas ton histoire. Vous voyez que là, le vieillard ne s'est pas présenté. D'ailleurs, qu'est-ce que fait Lucien? Je lui répondis en ces termes: qui es-tu donc, Seigneur? Et qui sont ceux qui sont avec toi? Ah, alors nous sommes sur les charbons ardents et nous avons la réponse. Quelle est-elle? Je lui répondis, voici sa réponse. Je suis Gamaliel, qui ai élevé Paul, l'apôtre du Christ, et qui lui ai enseigné la loi à Jérusalem. Celui qui est placé près de moi dans le tombeau, du côté de l'Orient, est le Seigneur Étienne, que les princes des prêtres et des juifs ont lapidé à Jérusalem pour la foi du Christ, hors de la ville, à la porte du nord, sur la route de Cédar, où il demeura un jour et une nuit, étendu par terre, sans sépulture, afin de devenir, selon l'ordre impie des princes des prêtres, la proie des bêtes sauvages. Alors, on va s'arrêter là déjà tout de suite. Coup de théâtre. Je suis Gamaliel. Alors, je trouve ça extraordinaire que dans la vision, c'est un bonhomme archi connu qui apparaisse. Parce que Gamaliel, quand on dit en Orient, c'est évident qu'on sait qui c'est, en fait. D'abord, les actes des apôtres le rappellent. Si on n'est pas convaincu, les lettres authentiques de Paul rappellent qu'il a été élevé par Gamaliel. Et en plus, quand on est en Terre Sainte, c'est vraiment un nom connu. Donc, coup de théâtre, je suis Gamaliel, qui ai élevé Paul, historiquement sûr, apôtre du Christ, c'est sûr, et c'est moi qui ai enseigné la loi à Paul à Jérusalem. Donc, on se retrouve avec un fait historique sûr. Gamaliel, c'est bien celui-là. Vous voyez, il n'y a pas de doute à avoir sur l'identité. Alors après, évidemment, la question, ça sera: est-ce que le vieillard qui s'exprime est vraiment Gamaliel? Mais sur ce qu'il dit de lui-même, pour le moment, c'est sûr. Enfin, je vous dis ça. C'est une histoire qui n'a rien à voir. Mais il y a un mois de cela, quelqu'un a sonné à la porte du presbytère. J'ai été avec lui pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, ce qu'il me racontait était tellement invraisemblable et contradictoire que j'ai fini par révoquer en doute la totalité de ce qu'il m'a raconté. Parce qu'en fait, il n'y avait rien qui tenait debout. Donc, j'ai fini par décider que c'était quelqu'un qui était probablement plutôt, qu'il aurait fallait accompagner assez vite à l'hôpital psychiatrique. Et là, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que quand le contenu de l'histoire est raisonnable du début à la fin, on peut y accorder créance. Si ça part dans tous les sens, ça devient plus difficile. Pour le moment, on peut dire pourquoi pas. Plus extraordinaire, celui qui était avec moi au tombeau du côté de l'Orient est le Seigneur Étienne. Alors ça, c'est le deuxième coup de théâtre. Parce que vous vous retrouvez à côté avec deux bons hommes très célèbres dans le même, qui partagent le même tombeau. Alors, ne vous étonnez pas de cela. C'est-à-dire que les tombeaux antiques, c'est des espèces de, surtout à Jérusalem, c'est des grandes chambres où vous êtes à plusieurs. C'est des dortoirs, si vous voulez. C'est pas des tombeaux isolés. Bon, un peu comme nous, on a des caveaux. C'est à peu près ce système-là. Bon. Donc, on nous dit, Il nous dit qu'il est avec Étienne. Et alors là, on se retrouve sur quelque chose d'historiquement fiable, puisque on nous raconte le martyr d'Étienne, que les princes des prêtres et les juifs ont lapidé à Jérusalem pour la foi du Christ. On rajoute un détail, hors de la ville, ben oui, c'est normal. Les châtiments mortels sont hors de la ville. On ajoute un deuxième point, à la porte du nord, sur la route de Cédar. La route de Cédar, c'est la route de Damas. C'est la même chose. Ce qui est embêtant, c'est quand c'est cette lettre qui sert de première attestation pour le lieu du martyr de Saint-Étienne. Et qu'est-ce que nous dit ensuite ? Que Saint-Étienne a demeuré un jour et une nuit par terre, sans sépulture, pour devenir la proie des bêtes sauvages. C'est normal. Donc, ce que dit, au sens où c'est le châtiment habituel, cette affaire. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que personne n'a réclamé le corps d'Étienne au début, au tout début, donc il devait être dévoré. Ah, le merveilleux revient. Mais Dieu ne voulut point qu'il reçût leurs atteintes. Pardon pour la faute d'orthographe. Les bêtes sauvages, les oiseaux de proie et les chiens respectèrent ces restes précieux. Voilà le premier merveilleux. C'est que normalement, si je mets un corps qui est de la chair fraîche bonne à manger, bien, je dois être dévoré par quelqu'un. Et là, il n'y a personne qui vient. Donc, les restes restent. Mais enfin, ceci dit, ça dure juste un jour. Et comment ça continue ? Et moi, Gamaliel, plein de compassion pour le sort du ministre du Christ et de hâte pour recevoir ma récompense et avoir part avec ce saint homme dans la paix, j'ai envoyé pendant la nuit tous les hommes religieux que je connaissais, croyant en Jésus-Christ et habitant Jérusalem au milieu des Juifs, et leur fit toutes mes recommandations. Alors ça devient franchement plus étonnant. Voyez-vous, Gamaliel dirait, par piété pour les morts, j'ai voulu recueillir ses restes, pourquoi pas. Là, nous avons tout d'un coup un Gamaliel converti. Je ne dis pas que c'est impossible, attention. Parce que de fait, dans le judaïsme, c'est quelque chose qui parfois est sous-entendu, que Gamaliel serait passé au christianisme. En tout cas, il y a une question qui se pose, c'est, je raisonne de manière un peu simple, mais voyez, lorsque les Juifs, dans les Actes des Apôtres, disent à Gamaliel, serais-tu toi aussi devenu galiléen ? Ça veut dire quoi ? Si Saint-Luc, qui est un historien sérieux, je répète, ose dire un truc pareil, c'est qu'effectivement, des Juifs ont accusé Gamaliel de s'être converti au christianisme. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc ça veut dire qu'il est possible que dans les années 30, la question se soit posée. Qu'est-ce qu'il en est après d'une conversion effective au christianisme ? Je n'en sais rien. J'ai l'impression que Luc l'ignore. Parce que si Luc avait eu connaissance de la conversion de Gamaliel au christianisme, il l'aurait dit haut et fort. S'il ne dit pas, c'est qu'il n'en a pas connaissance. Mais il dit qu'il y a des gens qui, parmi les Juifs, pensent que Gamaliel s'est converti au christianisme. Est-ce que ça va ? Je suis clair avec ça ? Bon. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Oh, je vais le redire dans les termes très contemporains pour bien faire saisir. C'est un peu comme si quelqu'un, vous voyez, qui est en chemin, finit par dire un truc qui semble aller dans le sens du christianisme. Que ses interlocuteurs lui diraient, mais enfin, vous êtes devenu chrétien ou quoi ? Vous voyez, c'est quelque chose de cet endroit-là, la réflexion des Juifs devant Gamaliel à Jérusalem. Ceci dit, ça laisse la porte ouverte à une possible conversion au christianisme de Gamaliel. Moi, je dis juste que Saint-Luc manifestement l'ignore. Bon. Mais bon. Toujours est-il que dans cette lettre du 5e siècle, quand même quasiment 5 siècles après, on nous dit que Gamaliel se présente comme étant converti au christianisme, voulant avoir sa récompense. Alors, traduisez en termes très concrets, ça veut dire voulant devenir à la suite d'Étienne martyr. Parce qu'avoir sa récompense, c'est ça que ça veut dire. Hein. Avoir sa récompense, ça veut dire gagner le combat jusqu'au bout. Donc, quand on vit au premier siècle, à Jérusalem, ça veut dire être martyr. Hein. C'est la seule manière d'avoir sa récompense. Mais remarquez que si, encore une fois, les Juifs disent à Gamaliel, t'es devenu chrétien ou quoi? Ça veut dire qu'il est quand même passé pas très très loin de ça. Avoir part avec ce saint homme dans la paix. Ça veut dire que Gamaliel affirme que sa conversion est le fruit du martyre de Saint-Étienne. Alors, vous voyez, faites attention à mon discours. Je vous dis pourquoi pas. Je vous dis pas, ça s'est passé comme ça. Parce que moi, j'ai un doute. Puisque je n'ai aucune autre attestation de la conversion de Gamaliel. Alors que ça serait un tel, que ça serait un tel coup dur pour les Juifs, hostile, que les chrétiens l'auraient affirmé haut et fort. Je nuancerai après un peu mon propos tout à l'heure. Mais bon, toujours est-il que Gamaliel affirme du coup qu'il prend tous les gens qui connaissent, qui croient en Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ, pardon, pour aller chercher le corps. Alors, je leur donnais tout ce qui leur était nécessaire et les déterminais à se rendre secrètement sur le lieu du supplice. Donc là, on agit dans la clandestinité. On n'est pas du tout dans le fait de récupérer, par exemple, le corps de Jésus, ou même récupérer le corps de Pierre. Parce que rappelez-vous ce que vous avez vu il y a 2 semaines sur le corps de Pierre, récupéré très vite et de manière tout à fait officielle. Alors que là, je le fais dans la clandestinité. Alors évidemment, peut-être parce qu'il risquerait la mort, mais bon. Sur le lieu du supplice pour enlever le corps et le porter dans un de mes chars, à ma maison de campagne, appelée Kfar Gamala. Oh, extraordinaire. Ben oui, ça tombe bien, parce que Kfar Gamala, ça veut dire quoi? Le village de Gamaliel. C'est ça le nom du village, en hébreu ou en araméen. Hein. Kfar Gamala. D'ailleurs, la lettre traduit, c'est-à-dire maison de campagne de Gamaliel, à 20 miles de la ville, donc à peu près entre 15 et 20 km. Extraordinaire. C'est là où vous voyez, moi, je me dis ça, je veux bien être crédule, mais j'ai un petit doute parce que ça marche un peu trop bien quand même, tout ça, en fait. Mais ceci dit, si le prêtre habite à Kfar Gamala au 5e siècle, Kfar Gamala, ça veut dire incontestablement la maison de campagne de Gamaliel. Alors, soit il a tout inventé de A à Z, soit il y a un embryon de tradition qui fonctionne. Vous allez voir la suite. Vous l'avez peut-être déjà vu, puisque vous avez peut-être déjà tout vu. Mais bon, moi, j'ai envie de faire durer le suspense. Là, je lui fis des funérailles qui durèrent 40 jours. Grandiose. Grandiose, les funérailles. Mais comment est-ce qu'on peut faire des funérailles grandioses à un bonhomme qui a été un supplicié 2 jours avant? Alors, vous me direz, oui, mais enfin, on est quand même à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem, donc ce n'est pas exactement au même endroit. Pourquoi pas? Et je le fis déposer dans le monument que je m'étais fait faire en cet endroit. Donc ça veut dire, moi, Gamaliel, j'ai préparé mon tombeau. C'est normal, ça. C'est tout à fait normal. J'ai bien des cas à Jérusalem de gens qui se sont fait préparer leur tombeau. Donc, par exemple, si vous pensez encore à Jérusalem, mais ce qu'on appelle le tombeau des rois, dans la Jérusalem Est, lieu de très haute tension entre les Juifs ultra-orthodoxes et la France, puisque le tombeau des rois appartient à la France, eh bien, c'est précisément une histoire comme ça. Bon, les Juifs ultra-orthodoxes affirment qu'il s'agit du tombeau des rois de Juda, ça c'est n'importe quoi. En revanche, c'est un tombeau qui a été préparé par une reine, mais qui n'a jamais habité dedans finalement, enfin, qui s'est jamais fait enterrer dedans, mais elle avait construit son propre tombeau. Bon. Donc c'est une histoire normale jusque-là. On retrouve, vous voyez, c'est là la difficulté. C'est que tous les embryons de l'histoire sont normaux. Mais l'ensemble devient quand même un petit peu étonnant. Mais bon, pourquoi pas? Je l'ai donc fait mis dans la case située du côté de l'Orient. Donc, Gamaliel, dans son songe, dit, c'est moi qui ai mis Étienne à l'Est. Et j'ai fait donner à ces gens de quoi subvenir à tous les frais de ces funérailles. Si ça ne vous suffit pas, comme extraordinaire, troisième extraordinaire, dans l'autre case, fut placé le Seigneur Nicodème. le même qui alla trouver Jésus pendant la nuit et qui entendit ces paroles de sa bouche. Quiconque ne renaît pas l'eau et les Saint-Esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et qui fut baptisé par les disciples de Jésus-Christ après son entretien avec lui. Je vais lire jusqu'au bout, mais faites attention que cette phrase-là est extrêmement importante, en fait. Quand les Juifs, parce qu'elle dénote une connaissance de l'évangile de Saint Jean et de son fonctionnement qui est remarquable, pas juste de la lettre de l'évangile, mais de la manière dont ça fonctionne. Quand les Juifs en eurent connaissance, ils le privèrent de son titre de prince, l'anathématisèrent et le chassèrent de la ville. C'est moi, Gamaliel, qui l'accueillis dans ma propriété, comme une victime de la persécution pour le Christ. J'ai pourvu à sa nourriture et à son entretien jusqu'à la fin de ses jours et à sa mort. Je l'ai fait enterrer avec honneur à côté du Seigneur Étienne. Alors, je retourne à Nicodème. Donc Nicodème, vous vous rappelez, en Jean 3, est celui qui va trouver Jésus pendant la nuit et qui entend de Jésus les paroles de sa bouche, quiconque ne renaît par l'eau et le Saint-Esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Jean 3, grand discours baptismal. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Ensuite, il a été baptisé par les disciples de Jésus-Christ après son entretien avec lui. C'est cette phrase-là qui dénote une connaissance profonde de l'Évangile selon Saint Jean. À savoir que vous avez plusieurs affirmations. De point de vue littéral, ça renvoie à la discussion qu'il y a sur le baptême donné par les disciples de Jésus. Ça, c'est de manière littérale. De manière non littérale, mais littéraire, ça veut dire que Lucien, ce prêtre, comprend parfaitement que, en fait, Saint Jean raconte, en mettant des rencontres à l'époque de Jésus, sur tout un ensemble de choses qui sont post-pascales. C'est-à-dire que le contexte baptismal évident de Nicodème renvoie à la foi en la résurrection des morts. Donc, à la résurrection de Jésus lui-même. Je ne vous rentre pas dans le détail de cette question du Nouveau Testament, mais toujours est-il que ce qu'on nous dit, et c'est là où c'est important, que les Juifs prennent connaissance de ce fait, donc du baptême secret de Nicodème, et du coup chassent Nicodème de la ville. Rappelez-vous que dans l'évangile de Saint Jean, on nous dit toujours que Nicodème est allé trouver Jésus de nuit, en secret, par peur des Juifs. Vous vous rappelez de cela? Ah! Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on fait mention de Nicodème dans l'évangile? Précisément parce que Nicodème est devenu chrétien. Pourquoi est-ce que l'évangile selon Saint Jean n'arrête pas de parler de ces gens qui n'osent pas se déclarer ouvertement pour le Christ par peur des Juifs? Précisément parce que c'est la réalité de la situation. Qu'il y a tout un ensemble de gens qui se convertissent au christianisme et qui n'osent pas le dire, par peur des Juifs. Mutatis mutandis, c'est exactement ce qui se passe avec la conversion des musulmans à l'heure actuelle. Et y compris en France. Chaque année en France, il y a un certain nombre de baptêmes secrets. Parce que les gens risqueraient leur vie. Donc, si ça existe aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça ait existé il y a 2000 ans. Si ça n'ait pas existé il y a 2000 ans. Donc, du coup, l'histoire n'est pas absurde. Ce que je veux dire par là, c'est que l'évangile selon Saint Jean nous donne toutes les clés pour penser que Nicodème soit converti secrètement et qu'il soit devenu réellement chrétien. D'où la raison qu'on fasse mémoire de son nom. Ce que ne dit pas cet évangile, c'est qu'il a été chassé. Mais c'est possible. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans un cours du Nouveau Testament, mais il y a quelques petits indices dans cette affaire. Je vous en donne un seul. C'est la deuxième lettre aux Corinthiens, bizarrement, chapitre 8. Je l'avais peut-être évoqué l'année dernière à propos du Saint-Sépulcre, mais la quête, la collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem est une collecte très sérieuse. C'est parce que les habitants aisés de Jérusalem qui se sont convertis au christianisme ont perdu leur maison. Si le cénacle à Jérusalem est dans le quartier chic de Jérusalem, c'est parce que c'est un grand prêtre, enfin un membre de l'aristocratie sacerdotale qui fait entrer Jésus chez lui, au cénacle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, et le cénacle très rapidement cesse d'appartenir à ce bonhomme-là. Donc ça veut dire que il y a eu probablement une expulsion. Donc l'histoire qui nous est racontée sur Nicodème n'est pas absurde. C'est ça ce que j'essaie de vous dire. La seule chose étonnante, c'est la conjonction des trois. D'avoir et Gamaliel, et Étienne, et Nicodème. Je trouve que ça fait un peu trop, quoi, en fait. Alors comment ça continue? Donc on nous dit que Gamaliel a reçu Nicodème chez lui et qu'il l'a mis dans le tombeau à côté d'Étienne. Ok. Comment ça continue? Donc Gamaliel, le vieillard, nous dit « J'avais un fils bien-aimé appelé Abibas. Il avait reçu avec moi le baptême du Christ des mains du disciple du Seigneur. Il mourut à l'âge de 20 ans. Ah oui, alors il avait reçu avec moi le baptême du Christ. Parfaitement légitime, puisque vous rappelez la conversion du centurion Corneille. C'est toute une maison qui se convertit à la fois. Donc, vous voyez, on est toujours dans des choses qui sont tout à fait raisonnables. Il mourut à l'âge de 20 ans avant moi et fut déposé dans la case supérieure. Alors, vous savez, là, on a la géographie du tombeau qui est en train d'être décrite. Où je fus placé moi-même après ma mort. Quant à ma femme, Etna, et mon fils aîné, Sélémias, n'ayant point voulu devenir disciple du Christ. Ah, intéressant. Si vous croyez qu'on force les gens à devenir chrétiens, là, vous avez un texte remarquable sur le fait que ce n'est pas le cas. Donc, ok, on peut devenir chrétien avec la maison, mais enfin, quand même, il y en a parfois qui ne veulent pas. Donc, c'est la femme et le fils aîné. Et du coup, ils ont été enterrés à Kafar Semelia, le village appartenant à ma femme, qui a donné son nom au fils. Ok. Donc, Gamaliel nous donne toutes les explications pour dire pourquoi il est enterré avec son fils aîné, son fils cadet, ainsi que les deux bons hommes très célèbres, tandis que le reste de la famille est ailleurs. Bon, ça, il faut comprendre que la sépulture ne se mélange pas. Peut-être même, d'ailleurs, que la femme Etna a voulu être séparée de son mari, Gamaliel. C'est tout à fait possible. Enfin, voyez, vous pouvez comprendre bien de manière. Alors, je vous dis. Gamaliel me répondit. Enfin, pardon. Moi, l'un, le prêtre Lucien, je fis cette question à Gamaliel. En quel endroit devons-nous chercher? Donc ça veut dire, moi, le prêtre Lucien, je fais confiance à votre parole. Réponse. Au milieu du faubourg, ce qui peut s'entendre d'un chant très voisin de la maison de campagne. Donc ça, c'est la traduction. Parce que nous, faubourg, comme en latin, ça veut dire à côté de la ville. Et donc, du coup, Lucien nous fait la traduction. Enfin, c'est lui qui le fait. Qui nous dit, mais en fait, faubourg, ça veut aussi dire un lieu très proche, un champ voisin de ma maison de campagne. Vous comprenez le truc, c'est que c'est là où c'est compliqué. C'est que il sent bien qu'il y a des couacs. Donc, il cherche à les résoudre. Et comment s'appelle le faubourg? De la Gabrie. Vous me ferez confiance, ça veut dire le champ des hommes de Dieu. Bon, vous me ferez confiance. Mais ça, les racines araméennes se retrouvent très très bien. Gabriel. C'est ça. Bon. Sur ce, je me suis réveillé et j'ai adressé cette prière au Seigneur. Alors ça, c'est important. Seigneur Jésus-Christ, si cette vision vient de toi, elle n'est pas une illusion. Alors ne faites pas du coup de ce prêtre Lucien un crédule à outrance. Lui, il dit, ok, j'ai une extase, c'est extraordinaire quand même ce qu'on me raconte. Demande à voir. Mais quand même, comme je demande à voir, mais je ne suis pas un rationaliste. Ça, c'est peut-être l'avantage par rapport à nous. Comme je ne suis pas un rationaliste, je l'adresse dans ma prière. C'est-à-dire, Dieu, ça vient de toi, ça ne vient pas de toi. Si cette vision vient de toi et qu'elle n'est point une illusion, fais qu'elle se renouvelle une deuxième et une troisième fois. C'est-à-dire, bah, recommence et à ce moment-là, je te fais confiance. Quand tu le voudras et de la manière qu'il te plaira. Donc, le prêtre Lucien ne veut pas être un magicien. Donc, il nous dit, non. Moi, je voudrais laisser à Dieu l'initiative. Je me mis donc à jeûner et je ne me nourris que de fruits secs jusqu'au vendredi suivant. Donc, une semaine à ne manger que des fruits secs. C'est un vrai jeûne. Donc ça, c'est une manière de se mettre en état spirituel. Vous voyez, c'est de dire le jeûne étant le jeûne étant une œuvre spirituelle par excellence. J'ai prié, je jeûne, comme ça, ça viendra de Dieu. Ça, c'est une manière de dire pour éviter de laisser la prise au démon ou à l'illusion, ce qui est peut-être la même chose. Alors, le Seigneur Gamaliel m'a paru de la même manière, donc 8 jours plus tard, avec le même aspect et le même costume que la première fois. Et il me dit, pourquoi as-tu négligé d'aller dire ce que je t'ai prescrit au saint évêque Jean ? Tu ne m'as pas obéi. Je lui répondis, je n'ai pas osé, Seigneur, annoncer ce que j'avais vu tout de suite après la première vision que j'ai eue de crainte de passer pour un séducteur. Donc ça veut dire que ce prêtre Lucien cherche vraiment à être raisonnable. Il n'a pas envie de tromper les gens, en fait. Vous voyez, il ne se précipite pas en disant, oh là là, j'ai trouvé. Non. J'ai prié le Seigneur. Si c'était lui qui t'envoyait vers moi, de faire que tu m'apparusses une deuxième et une troisième fois. Gabriel répond, Gamaliel reprit, crois-moi, crois-moi, crois-moi. Bon, fais-moi confiance. Quand je fus réveillé, je rendis grâce au Dieu Tout-Puissant. Alors, voyez, c'est pas un doute. C'est, ça marche. Mais quand même, je m'assurais. Du coup, je me remis au jeûne en attendant une troisième révélation. Donc, ça veut dire, je recommence à me nourrir de fruits secs. La troisième semaine écoulée, le même jour, à la même heure, toujours le vendredi soir vers 20h, le même homme m'apparut avec un air menaçant et frémissant. Il me dit, pourquoi as-tu gardé le silence jusqu'à 7h et n'as-tu pas voulu aller rapporter à l'évêque Jean ce qui t'a été dit et montré? Donc là, maintenant, on dit quand même ça suffit. Alors, qu'est-ce que fait le prêtre Luce? Je continue la lecture. Ayant entendu cela dans mon extase, c'est-à-dire dans mon transport, je m'éveillais incontinent, je bénis le Seigneur et je me rendis sur le champ à la ville. Donc ça veut dire que le prêtre Lucien se lève à 21h et décide de marcher de nuit jusqu'à Jérusalem. Une vingtaine de kilomètres, bah, il vous faut 6h, ça monte en plus. Il arrive donc le jour, c'est bien. C'est-à-dire qu'il ne réveille pas l'évêque. Je lui ai rapporté toute ma vie. En entendant ce récit, l'évêque Jean se mit à fondre en larmes de joie et s'écria. Alors lui, il y va directement. Béni soit le Seigneur Dieu, fils du Dieu vivant. Si Dieu, ô mon cher ami, t'a révélé tout ce que tu dis là et a entendu, je dois faire la translation des reliques du bienheureux Étienne, premier martyr et archidiacre du Christ, de l'endroit où il est, en cette ville. Ah! Je continue jusqu'à la prochaine coupure. Il a le premier combattu les combats du Seigneur contre les Juifs et sur la terre, il a aperçu dans le ciel Jésus-Christ tenant dans sa majesté pendant que lui-même semblait comme un ange dans l'assemblée des hommes. Bon. Est-ce que vous avez remarqué quel est le... la chose immédiate que se dit l'évêque Jean, parce que ce n'est pas naturel si on veut bien y songer. Je dois faire la translation des reliques du bienheureux Étienne. Là, vous avez une nouveauté. Il ne s'agit plus de construire un sanctuaire sur le lieu de la tombe et de déplacer le corps. Je ne vous ai pas raconté l'invention de la tête de Saint-Jean-Baptiste, mais c'est la même époque. La tête de Saint-Jean-Baptiste est trouvée à, c'est une toute petite digression, rassurez-vous, à Emez, en 453. Donc, Emez, c'est dans la Turquie actuelle. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On construit un sanctuaire à Saint-Jean-Baptiste, à l'endroit où on a trouvé sa tête. Comme vous savez, on possède beaucoup de têtes de Jean-Baptiste. Donc là, est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est une autre? Je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, moi je sais que on fait comme ça. Là, au contraire, on nous dit il faut que je déménage. Parce que depuis Kfar Gamala, jusqu'à Jérusalem. Et en plus, si vous avez bien suivi, il y en a deux dont on se fiche complètement. Gamaliel et Nicodème. Non pas qu'il n'ait aucun intérêt, mais en fait, le seul qui est vraiment intéressant, c'est le martyr. Parce que Gamaliel, il n'est pas martyr, et Nicodème, il n'est pas martyr. Et quand on est à la fin du 4e ou au début du 5e siècle, le modèle de sainteté, c'est encore le martyr. Donc, il faut que je le déplace jusqu'à Jérusalem. Parce que c'est lui qui a d'abord été le premier des martyrs. Je verrai après pourquoi il faut absolument le déplacer à Jérusalem. Mais pour le moment, je continue l'histoire. Le pape me dit. Pape, soyez pas étonnés, hein, le patriarche de Jérusalem s'appelle un pape. De toute façon, les prêtres orthodoxes s'appellent des popes. C'est pareil. Pop, pape, c'est le même mot. Donc le pape me dit, va, fais des fouilles et si tu trouves quelque chose, demeure pour garder l'endroit et envoie-moi un diacre pour me chercher. Donc là, le prêtre Lucien doit se faire archéologue. Parce que le bonhomme qui fait des fouilles pour trouver quelque chose, ça s'appelle un archéologue. Alors voyez le raisonnement. J'ai quelqu'un qui a une expérience spirituelle, mystique, qu'il cherche à corroborer. Cette expérience, une fois qu'il n'en doute plus, il la remet à l'autorité épiscopale. Parce que c'est quand même comme ça que ça marche. Il la remet à l'autorité épiscopale, disant « je ne peux pas faire tout seul ». Parce que quelque part, je ne sais pas, enfin moi je dis, moi je suis un très mauvais prêtre, donc si j'avais été à sa place, vraiment j'aurais pris ma pelle et j'aurais cherché en fait. Je n'aurais pas attendu d'aller, je ne serais pas d'abord fait l'aller-retour à Jérusalem. J'aurais commencé par chercher moi-même. Ah non, lui, il a besoin d'avoir l'authentification de l'évêque que la vision est peut-être bonne. C'est intéressant quand même spirituellement. Et ensuite, il revient chez lui et maintenant, il doit prendre sa pelle et fouiller. Alors, je passe quelques lignes. Nous nous rendîmes au tombeau. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le tombeau de la Gabrie est identifié. Ça, c'est pas très difficile, hein, parce que si vous avez un grand mausolée, ça se voit hein, quand même. Hein. Simplement, il faut aller jusqu'à de la Gabrie, au sens où personne n'aurait eu l'idée d'aller jusqu'à de la Gabrie pour regarder ce qu'il y a dans le tombeau. Vous voyez, c'est ça le principe. C'est, en quelque sorte, l'invention du corps veut dire, j'ai en fait le tombeau à ma disposition, mais je n'ai pas je n'ai pas pensé à regarder. Et après y avoir fait des fouilles, nous trouvâmes trois cercueils, selon ce qui m'était apparu sous la forme de corbeille. Donc ça, c'est lié à sa vision, mais j'avais fait des coupures parce que le texte est vraiment très long. Nous trouvâmes une pierre tombale sur laquelle on lisait en très grosses lettres « Keagea Seliel ». Heureusement, nous avons la traduction, c'est-à-dire « serviteur de Dieu ». Ça ne s'invente pas. Et « Apan Dardan », donc « Apan », puis un autre endroit « Dardan », ce qui veut dire « Nicodème » et « Gamaliel ». Ça ne s'invente pas comme traduction. Là, je vous dis ça, moi je ne suis pas capable de faire le passage. Autant jusqu'à présent, j'y arrivais à peu près. Là, je ne suis pas capable. Je ne sais pas en quelle langue c'est censé s'exprimer. Mais ça touche à un problème historique redoutable qui est celui des langues parlées dans le bassin méditerranéen. C'est un problème redoutable. Je veux dire par là que le grec est la langue de culture jusqu'à l'invasion arabe. L'arabe a complètement remplacé le grec en moins de 20 ans. Ça, on le voit très bien. Ça ne nous dit rien de la langue que parlaient les gens tous les jours. Ah, mais d'ailleurs, le bonhomme ne comprend pas. C'est la traduction que nous donna de ces mots le pape Jean. Vous voyez, ça veut dire, le prêtre Lucien, prêtre de campagne, dit, bon, moi, je ne sais pas ce que ça raconte, donc je lis ça. Ainsi que je l'appris de la bouche même de Saint-Évêque. Donc, il nous dit, finalement, j'ai trouvé ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais je suis allé annoncer la chose à l'évêque, qui était alors à Lydda. Lydda, ça veut dire qu'il n'est plus à Jérusalem, mais qu'il est passé sous la côte. Enfin, peu importe, bon, qui n'est autre que Diospolis, peu importe, où il présidait un synode. Ah, donc ça veut dire qu'avant il était à Jérusalem, là il a changé d'endroit. Traduction, la fouille a quand même pris un peu de temps. Ça ne se fait pas en un jour. Du coup, que fait l'évêque? Il prit avec lui deux autres évêques. Éleuthère de Sébaste. Sébaste, aujourd'hui, c'est la ville... en fait, où Sébaste, ça n'existe quasiment plus, en fait. C'est une très ville, une grande ville byzantine. En fait, c'est la même ville que Sichem. Samarie. C'est à côté de Naplouse, donc c'est au nord de Jérusalem. Peu importe. Et Sébaste, c'est au même endroit. Et Éleuthère de Jéricho. Donc, en fait, il prend les beaux hommes qui habitent pas trop loin. La terre, tous trois se rendirent sur les lieux. Donc, vous vous retrouvez avec trois évêques qui arrivent sur la tombe. Quand ils ouvrirent le cercueil de Saint-Étienne, ah, c'est comme Saint-Jean, le disciple bien-aimé, arrivant avec Saint-Pierre au tombeau de Jésus. Celui qui rentre le premier, c'est l'autorité. Et bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand ils ouvrirent le cercueil de Saint-Étienne, la terre trembla. Allez, ça y est, on retrouve le merveilleux. Et il se répandit une odeur si douce et si suave que nul ne se souvient d'en avoir senti une pareille ou d'avoir entendu dire qu'on n'éprouva jamais rien de semblable. C'était au point que nous nous croyions transportés dans un paradis de délices. Bon, à votre avis, si je creuse une tombe vieille de 490 ans, 470 ans, ça va sentir quoi? Rien du tout, en fait. Rien du tout. Bon. Ok, si la tombe a 50 ans, ça va sentir très mauvais, ça je suis d'accord. Mais 450 ans, ça ne sent plus rien, enfin, ça sent la terre. Ou si ma tombe, elle est dans la pierre, ça ne sentira rien, en fait. Ou le renfermé, si vous voulez, mais pas grand-chose. Donc, l'odeur délicieuse nous dit quoi? Ah, renvoi néo-testamentaire. Est-ce que vous vous rappelez l'onction de Jésus à Béthanie? C'est exactement ça ce qui se passe. L'onction de Jésus à Béthanie. Oh, pourquoi on dépense autant de parfums? Mais elle a fait ça en vue de ma mort. Moi, je suis fasciné par ce passage de l'Évangile selon saint Jean. Hein. Parce que ce passage, il nous dit que la mort chrétienne est une mort qui sent bon, pas une mort qui sent mauvais. Et bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Si 450 ans après la mort, ça sent aussi bon que ça, ça veut dire que le corps est véritablement ressuscité. Ou que le corps est véritablement glorifié. Peut-être dire les choses comme ça. Moi, je préfère prendre le détail de ce texte, mais en fait, j'aurais pu vous en sortir des quinzaines d'autres, des textes comme ça. Hein. Ce n'est pas du tout un texte exceptionnel. Là, ce qui est exceptionnel, c'est juste que ce soit Étienne, Gamaliel et Nicodème. Mais le texte en lui-même, enfin, dans son fonctionnement, n'est pas exceptionnel. C'est-à-dire, c'est toujours l'association du merveilleux, de l'autorité, de la fouille et de phénomènes de ce genre-là. Ça sent très bon, c'est-à-dire que le Saint-Étienne est celui qui me conduit au paradis. C'est ça la logique. Hein. Et puis, il faut bien cette odeur, hein, parce que si je tombe juste sur un squelette, bah oui, quoi. Si je suis étudiant en anatomie, tant mieux, mais enfin, sinon, ce n'est pas très intéressant. Et ça continue comme. Il y avait avec nous une foule de gens dont plusieurs étaient atteints de différentes maladies. À l'instant où ils sentirent cette douce odeur, il y en eut 73 qui recouvrèrent la santé. Bon. Alors, évidemment, c'est là où c'est compliqué. Alors, ne me posez surtout pas la question de ce que je vois venir. Est-ce que ça a vraiment eu lieu? J'en sais rien, j'y étais pas. Il est évident que le langage ici est d'une certaine manière symbolique. Mais faites attention, ce n'est pas parce que quelque chose est symbolique qu'il est faux. Notre tort, nous, aujourd'hui, est de penser que le symbole est nécessairement faux. Ce n'est pas vrai. Le symbole peut être vrai. Alors, 73, pourquoi 73? Le chiffre n'est pas anodin. Quand vous faites l'arithmétique, 73, c'est 72 plus 1. 72, c'est quoi? C'est le nombre total des disciples, plus 1 surabondance. Donc ça, c'est un chiffre symbolique. Bon. Et pourtant, vous savez, moi, je ne suis pas un maniaque des symboles des chiffres, hein, parce que souvent, on fait dire absolument n'importe quoi dans la matière. Mais bon. Ils sentent la douce odeur et ils recouvrent la santé. La mort du saint martyr apporte la vie. Là, vous êtes en fait dans la logique de l'intercession des saints, en fait. Hein. Et vous voyez comment ça se met en place. Parce que là, quand le prêtre Lucien raconte ça, ça lui paraît absolument évident. Il ne dit pas que ça n'est jamais arrivé comme ça. Donc ça a l'air de dire, bah oui, c'est normal que les reliques d'un saint homme apportent la vie. C'est pas, j'essaie de bien me faire comprendre, mais ce n'est pas l'intercession de Saint-Étienne au sens où ce n'est pas la prière à Saint-Étienne qui a accordé la santé à ses 73 malades. C'est le contact des reliques. Contact par l'odeur. Alors, c'est pas un contact par le toucher. Faites attention, on nous a jamais dit qu'ils avaient touché, qu'on leur a fait toucher le corps. Non, c'est juste que le corps émane une telle odeur qui agit sur la maladie de ces gens-là. On est bien d'accord avec ça. Ce genre d'histoire, on en retrouve dans d'autres saints, dans d'autres. Bon. Chez d'autres, les démons qui les possédaient furent chassés. Donc, j'ai en même temps les malades qui sont guéris, les exorcismes avec les démons qui sont chassés. Là, c'est une perte de sang qui s'arrêta. Oh, vous vous rappelez de la femme aux hémorroïs? Eh bien, c'est la même histoire. Ici, ce furent des écrouelles et des furoncles qui se trouvaient guéris. Bon. Autrement dit, vous avez l'accomplissement des promesses messianiques. C'est ça que ça veut dire. Hein. Les malades sont guéris, c'est l'accomplissement des promesses messianiques. Donc, la logique, c'est de dire ce que Jésus a fait de son temps. Par exemple, Saint-Luc, chapitre 4, dimanche dernier, enfin la messe d'hier. Ce que Jésus a fait de son temps. Ce que les apôtres ont fait de leur temps. Rappelez-vous que tous les actes des apôtres ont pour but de nous dire que les apôtres font ce que Jésus faisait. C'est-à-dire le lien très fort, mais très concret, entre les choses. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Les reliques des saints le font. D'accord le schéma? Ce que Jésus a fait sur cette terre, ce que les apôtres ont fait par la puissance de Jésus, les reliques des saints le font, sous-entendu, par cette même puissance. C'est ça que veut dire ce texte. Bon. Théologiquement, c'est quand même pas idiot. Hein. Parce que si le saint est tellement dans la lumière de Dieu, il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas comme Dieu vis-à-vis de nous. Le seul point peut-être un peu délicat, c'est le passage par la relique. Mais rappelez-vous ce que je vous ai, pour ça que j'ai passé autant de temps au début, sur la question de la résurrection des morts et de la résurrection de la chair, ou de la transformation du corps mortel en corps glorieux. Alors peut-être que ce ne sont que des images, et c'est ça ce qu'on essaye de dire en fait. Que le corps du martyr est un corps déjà glorieux. Et pourtant, vous voyez, ce sont des membres épars. C'est un squelette, c'est rien de plus. Et c'est déjà glorieux puisque ça a autant d'effets que cela. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Après avoir embrassé les saintes reliques, donc je vénère les reliques. Mais j'insiste sur le fait que pour Lucien, ça a l'air tout à fait normal de faire ces gestes. Donc, si c'est le cas, c'est peut-être qu'il les a déjà accomplis dans d'autres cas. Par exemple, pour les martyrs dont on connaissait déjà le lieu d'ensevelissement. On referma le cercueil, ok, et on porta les reliques de Saint-Étienne en chantant des psaumes et des hymnes. Ça s'appelle une procession. Mais alors, ce n'est pas les processions comme on connaît nous qui sont des petits joueurs. Procession depuis Kfar Gamala à Beth Shemesh jusqu'à Jérusalem. Je vous rappelle, une vingtaine de kilomètres. Je porte mon cercueil en chantant. Ah, pourquoi donc? Je la porte à l'Église de Sion où il avait été ordonné archidiacre. Alors ça nous remet dans la géographie de Jérusalem. L'Église de Sion, c'est en fait, une église qui a complètement disparu aujourd'hui, c'est le Cénacle. C'est la même, en fait. L'église de Sion, parce que l'église de Sion, c'est celle qui est sur le mont Sion, comme son nom l'indique. Et donc, c'est le Cénacle. D'accord? Bon, ça, c'est juste pour le détail. Mais donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a... Vous remarquerez qu'en 415, on n'amène pas les reliques de Saint-Étienne au lieu de son martyr. On l'amène dans la plus grande église de Jérusalem, là où il est, l'a été ordonné diacre. On nous abandonna quelques parcelles des membres du saint. Ah, ça y est, on commence le découpage. Alors, faites attention que ça, c'est quelque chose qui est propre à l'Orient. Je reviendrai occidental plus tard. C'est en Orient qu'on découpe les corps. En Occident, on ne découpe pas les corps. Parce qu'en Occident, il y a une loi romaine qui est très intégrée, qui est celle de la préservation au maximum de l'intégralité des corps. En Orient, ça pose au moins de problèmes. Donc, on nous abandonna quelques parcelles des membres du saint. Donc, ça veut dire qu'ils récupèrent un petit bout. Alors, quoi? J'en sais rien. Mais ça veut dire que, du coup, lorsque le prêtre Lucien rentre chez lui dans son église, à Kfar Gamala, il va rentrer avec quoi? Quelques reliques de Saint-Étienne. C'est ça que ça veut dire. Et qu'il va les mettre dans son église. La translation de ces reliques s'est faite le 26 décembre. Et vous avez compris pourquoi on célèbre la Saint-Étienne le 26 décembre. On ne connaît pas la date de ce martyr. Donc on célèbre la translation de ces reliques depuis Kfar Gamala jusqu'à Jérusalem. C'est assez fréquent, hein, ce genre de choses pour les... Pour les fêtes des saints, notamment pour les saints anciens. À cette époque régnait déjà depuis longtemps une sécheresse désolante. Mais alors même de la translation, la pluie tomba en abondance et abreuva la terre. Donc le corps glorieux du saint d'Étienne a déjà guéri des malades, mais en plus il a une portée cosmique. Puisqu'il est capable de faire pleuvoir quand il y a la sécheresse. Tout le monde glorifiait le Seigneur à cause de son saint martyr Étienne et à cause du trésor céleste de grâce et de miséricorde que le Seigneur Jésus-Christ daigne ouvrir au monde en péril, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu à la fois pour le martyr d'Étienne et en même temps parce que l'invention des reliques ou la découverte du corps a été occasion de grâce pour le 5e siècle. Donc je ne suis pas du tout en train de chercher à faire œuvre de curiosité historique quand je cherche les reliques de Saint-Étienne. Je suis en train de chercher à obtenir un bienfait pour le monde dans lequel je vis, voyez, tout simplement. Alors, je n'en ai pas fini avec Saint-Étienne. Parce que comment ça peut dire? Première chose, ça continue par le fait que l'invention des reliques de Saint-Étienne est une véritable bombe pour le monde entier. Et ça, c'est surprenant. Parce que, en gros, vous voyez l'affaire. Étienne, premier martyr, extraordinaire. J'ai découvert son corps. Alors, vous comprenez bien, je ne peux pas découvrir le corps de Jésus puisqu'il est ressuscité. Donc le premier dont je peux découvrir le corps, c'est Étienne. Et quand je dis que c'est une bombe dans tout l'Occident, c'est que on voit fleurir les églises dédiées à Saint-Étienne. Savez-vous combien il y a de cathédrales dédiées à Saint-Étienne en France? 19. C'est énorme, 19. Alors, pas sur la centaine de diocèses actuels, mais sur les 180 diocèses qui existaient à l'origine, mais quand même, c'est énorme. Surtout quand on réalise que la plupart de ces cathédrales datent des 5e, 6e siècles. Je vous en donne un seul exemple, la cathédrale de Metz. Deuxième chose qui se passe, un peu plus tard, donc en 415, je résume, on a transféré la dépouille de Saint-Étienne à Jérusalem. Eh bien, en 438, on fait une deuxième chose. L'évêque Juvénal, je vous écris cela, construit une basilique Saint-Étienne à Jérusalem. Alors, ça va vous dire quand même l'importance de ce qui se passe. Où est-ce qu'il le fait, l'évêque Juvénal? Eh bien, au nord de la ville de Jérusalem, c'est-à-dire sur le lieu supposé du martyr de Saint-Étienne, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Eh bien, en 438, peu importe pourquoi c'est lui et pas un autre, Saint Cyrille d'Alexandrie, qui était en voyage à Jérusalem, transfère les reliques de Saint-Étienne depuis le mont Sion, donc l'église de tout à l'heure, jusqu'à la nouvelle basilique qui vient d'être construite. Autrement dit, j'ai construit un sanctuaire à Saint-Étienne sur le lieu de son martyr, et je mets au lieu de son martyr la dépouille de Saint-Étienne. D'accord? Tout simplement. Comme si les reliques devaient séjourner de manière définitive à l'endroit où le combat a été gagné. C'est un peu ça, la logique. Et du coup, si j'ai un sanctuaire à Saint-Étienne à cet endroit-là, je vais pouvoir avoir des pèlerinages nombreux à Saint-Étienne sur le lieu de son martyr. Savez-vous ce qu'est la basilique Saint-Étienne aujourd'hui à Jérusalem? Tout simplement l'école biblique et archéologique française. Voilà pourquoi ça s'appelle le couvent Saint-Étienne. Et l'église du couvent et la basilique Saint-Étienne. Sauf qu'il n'y en a plus rien du tout, puisque les Perses, lorsqu'ils ont envahi Jérusalem en 614, ont détruit tous les lieux saints de Jérusalem. Le Saint-Sépulcre. Ils ont absolument tout détruit, en fait. Le Saint-Sépulcre, les églises de la Vierge Marie, et la basilique Saint-Étienne. Et depuis 614, les reliques de Saint-Étienne ont disparu. En tout cas, celles qui étaient à Jérusalem. D'accord. Tout cela ne suffit pas. C'est que dans le même temps, la découverte de ces reliques de Saint-Étienne paraît tellement importante que les gens cherchent à récupérer des morceaux de reliques. En particulier, les gens importants. Je suis plutôt en Orient, ici. Alors, je vais vous en donner un exemple. Eh bien, en 429, l'impératrice Pulcherie se procure tout simplement l'un des deux bras de Saint-Étienne. Donc, un morceau, l'humérus, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pris. Enfin, vous savez, moi, je ne suis pas très, très doué en anatomie, donc je ne sais pas très bien en quel état on est au 5e siècle. Enfin, en 5 siècles, je suppose qu'en 5 siècles, on doit être à l'état de squelette. Il ne doit pas rester grand-chose de plus. Donc, elle récupère un bras de Saint-Étienne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle le fait venir à Constantinople, tout simplement. Parce qu'elle veut avoir Saint-Étienne chez elle. Et pas seulement aller en pèlerinage à Jérusalem, c'est plus simple. Mais n'oubliez pas que la vertu du corps de Saint-Étienne, que je vous ai décrite en lisant le texte du prêtre Lucien, est considérée continuée. Alors, je ne sais pas si l'odeur délicieuse se poursuit, ou si elle est terminée, mais n'empêche que c'est ça, ce qu'on en attend. Alors, je ferai la synthèse quand même un moment de ces choses-là, mais pour le moment, je continue. L'impératrice Pulchérie ne se contente pas de récupérer un bras de Saint-Étienne. En 450, cette même dame fait venir Rome, morceaux et reliques de Saint-Laurent et de Sainte-Agnès. C'est-à-dire qu'elle se constitue un trésor de reliques. Alors, vous voyez le phénomène, je suis une impératrice et je veux avoir chez moi, à portée de main, les reliques des saints les plus importants de mon époque. Saint-Étienne, Saint-Laurent, Sainte-Agnès. On n'est pas dans la piété populaire, vous hein, voyez. Je reviendrai sur ce rapport des souverains aux reliques parce qu'en fait, c'est un phénomène important. Alors là-dessus, j'attends l'écriture d'une thèse sur le sujet, en fait. Je dis ça parce que lorsque j'ai fait ma propre thèse en histoire, je me suis rendu compte que, chose, je ne m'étais jamais intéressé à ça. Peut-être que je vous sortirai un texte si je le retrouve, mais je me suis rendu compte que la dynastie que j'étudiais, peu importe laquelle, les Wettines, les Saxons, se sont constitués des trésors de reliques. Je crois que j'ai commencé il y a 15 jours en vous racontant comment les Habsbourg avaient eux aussi leurs trésors de reliques dans la Schatzkammer. Et puis je me suis rendu compte que les Wittelsbach à Munich, c'était pareil. Que les Wittelsbach qui sont à Heidelberg, c'est pareil. Que lorsque les Hohenzollern étaient catholiques, c'était pareil. Et puis que si on va à Paris, chez les Bourbons, et même avant chez les Capétiens, c'est pareil. Ça veut dire que tous les souverains ont leur trésor de reliques. Donc ce n'est pas juste une histoire de piété populaire. C'est vraiment une histoire qui déborde largement, où on sent qu'il y a un point commun entre la piété populaire et la piété des grands. Mais bon, ça sera pour la semaine prochaine. Mais je l'annonce d'emblée parce que ça commence en fait tout de suite. Vous voyez, en 429, l'impératrice Pulchérie veut avoir son trésor de reliques chez elle. Je me suis un peu emporté, mais là, je continue avec ce que dans cette histoire-là. La translation des reliques de Saint-Étienne et la construction d'une église sur le lieu de son martyre n'est pas un phénomène isolé. Je voudrais vous en donner peut-être d'autres exemples. Parce que ça va être le début d'un changement anthropologique majeur. En fait, on décide de construire des églises sur les lieux des martyrs ou bien de transférer les reliques des martyrs à l'intérieur de la ville de Rome. De la même manière, alors, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, le lieu du martyr de Saint-Étienne à Jérusalem, c'est hors les murs. Lors du martyre, donc il doit avoir lieu en 36 ou quelque chose comme ça. Et en 438, c'est complètement à l'intérieur des murs. Vous voyez ce que je veux dire? Je me retrouve avec une dépouille à l'intérieur des murs. Je vais d'abord vous le raconter au niveau historique et après je vais le ressaisir au niveau théologique ou spirituel. Et ensuite, si j'y arrive, je vous raconterai une petite histoire encore. À Rome, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au 5e siècle, on commence à construire tout un tas d'églises à l'intérieur des remparts de Rome pour les saints martyrs dont les corps étaient à l'extérieur des remparts. Vous voyez, la semaine dernière, je me rappelle que je vous ai fait l'énumération d'un certain nombre de nécropoles où étaient les saints martyrs. Eh bien, aujourd'hui, ils n'y sont plus, puisqu'on les a déplacés. Translation. Alors, je vous en donne quelques exemples. Sainte Agnès, ça c'est l'exemple pour moi le plus frappant. Sainte Agnès était hors des remparts et elle est rapatriée là où elle est aujourd'hui. Enfin, si tant est qu'il s'agisse de cela, parce que là-dessus, bon, vous savez, moi je suis du genre un peu sceptique, mais le crâne qu'on nous montre actuel ressemble, je vous l'ai déjà dit, à une tête réduite de gigot. Donc ça me paraît un peu étonnant pour une jeune fille de 13 ans. Mais ce qui est tout à fait possible, si l'on a fait comme on faisait les Indiens, d'Amérique, c'est-à-dire une réduction des têtes pour que ça prenne moins de place. C'est possible. Donc, Sainte-Agnès est transférée là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire simplement sur la place Navone. Pourquoi à cet endroit-là plutôt qu'ailleurs? Parce que la place Navone est. C'est. Enfin, ça se voit, je ne sais pas si vous connaissez un peu Rome, parce que je ne vous ai pas préparé l'image, mais quand vous voyez, vous avez peut-être en tête l'image de la place Navone, quand vous regardez la place Navone, en fait, ça s'appelle un hippodrome. Ça a une forme d'hippodrome. Ou de, si ce n'est pas un hippodrome, enfin, je ne sais pas comment dire, un anthropodrome, c'est-à-dire un endroit où je fais des courses, quoi. Ça sert à courir, la place Navone, ça pas à prendre des photos devant les fontaines. Eh bien, du coup, quel a été le raisonnement au 5e siècle? Ça a été. Nous avons ici une place, enfin un stade, dont on sait qu'il existait déjà à l'époque du martyre de Sainte-Agnès. Du coup, il n'est pas impossible que Sainte-Agnès puisse ait vécu le martyre dans ce stade-là, puisqu'on sait qu'elle a été martyre dans un stade. Alors, remarquez bien que ça, c'est juste une hypothèse, parce que il y avait beaucoup de stades à Rome. Celui-là, ou peut-être un autre, mais enfin bon, pourquoi pas, admettons que ce soit celui-là. Donc, on décide que c'est celui-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? En bordure du stade, on construit l'église qui s'appelle aujourd'hui Santa Agnese Magone. Magone, ça veut dire du combat. L'église de Sainte Agnès dans son combat. Donc, l'église de Sainte Agnès comme lieu de son martyre. C'est ça l'idée, vous voyez. Et qu'est-ce que je vais faire du coup? Eh bien, je vais rapatrier la dépouille de Sainte Agnès qui était hors les murs sur la Via Nomentana et je vais l'amener à l'intérieur des remparts de Rome, dans l'église que j'ai construite exprès pour. Ce phénomène-là, ça s'est fait au 5e siècle. Vous le trouvez à bien d'autres endroits. J'en donne un deuxième exemple tout à fait marquant, toujours à Rome. Peut-être connaissez-vous l'église du Panthéon. Le Panthéon, à la base, c'est un temple païen, construit par l'empereur Hadrien, qui est syncrétiste, puisque c'est le temple de tous les dieux. Et savez-vous comment le Panthéon a été christianisé? Eh bien, de cette manière-là. On l'a appelé, et c'est son titre encore actuel aujourd'hui, c'est toujours une église, Sainte Marie des Martyrs. Et qu'est-ce qu'on fait dedans? Eh bien, quand vous rentrez dans le Panthéon, il y a peu de gens qui le savent, mais il y a une caisse qui est sur le côté gauche. Et dans la caisse, sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on trouve? Les ossements des martyrs inconnus. Ça veut dire que. Et ça, c'est fait pareil, 5e, 6e siècle. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on remarque dans les catacombes ou dans les nécropoles des alentours de Rome tout un tas d'ossements dont on sait qu'ils sont des martyrs. Alors, comment on le sait? Parce qu'il y a des graffitis qui nous aident. Mais on n'est plus capable d'identifier à quel saint ça appartient. Vous voyez, on ne peut pas nous trouver un saint Gervais, un saint Protais, ou un, je ne sais pas quoi, une sainte Thècle, tout ce que vous voulez, qui serait là, qui serait le saint en question. Donc, on recueille tous les ossements qu'on a inconnus, de la même manière que je recueille toutes les miettes de l'Eucharistie. Je les mets dans une boîte. Alors, pareil, moi, la boîte, je ne l'ai pas ouverte, évidemment, mais quand je vois la taille de la boîte, je me dis que ça doit être pas mal réduit en poussière, quand même, en fait. C'est tout à fait possible. Et j'en fais, du coup, la boîte de tous les saints martyrs, inconnus, je la porte dans l'église de Sainte Marie des Martyrs. Mais vous voyez le truc extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il fallait le mettre au Panthéon et pas ailleurs? Mais parce que le Panthéon, église de tous les dieux, devient l'église de tous les saints martyrs. C'est un peu ça l'idée, en fait. Et vous vous retrouvez avec les dieux païens ravalés au rang des saints. Ou si vous préférez, les saints et rehaussés au niveau des dieux. Quelque chose comme ça, en fait. Ce mouvement est fondamental parce que je me retrouve à avoir des morts à l'intérieur de la ville. Et ça, je répète, c'est un changement anthropologique majeur par rapport à l'antiquité païenne. Je vous avais dit, mais vous le savez de toute façon, que les morts sont exclus de la cité des vivants, normalement. Parce que la mort, pour un païen, c'est quelque chose qui est le plus épouvantable qui soit. Et vous savez, bon, je dis ça comme ça sans polémique aucune, mais l'un des signes les plus clairs de la déchristianisation de l'Occident, c'est ça. Hein. C'est lorsque je ne suis plus capable d'apprivoiser la mort. Je vous en donne un bon exemple. Le fait que les morts soient... Enfin, déjà que l'acte même de mourir, si je puis m'exprimer ainsi, se fasse en catimini ou en secret. Bon, c'est complètement acté au niveau anthropologique. À tel point qu'une famille chrétienne a énormément de mal à faire avaler à l'hôpital que oui, elle veut assister au dernier souffle. Je l'ai encore vu la semaine dernière, pas plus tard que cette semaine, à l'hôpital. Donc la mort cachée. Et donc l'un des éléments marquants est le fait qu'il y ait énormément, je ne sais pas, mais quand même pas mal de gens qui veulent disperser les cendres de leurs défunts. Parce que la mort n'a pas à voir avec chez nous, en fait. Donc ça c'est un des marqueurs. Alors, je reviens à l'Antiquité. L'Antiquité a donc séparé les vivants des morts. Le christianisme réunit les vivants et les morts. Mais pourquoi faire ? Ben, précisément au nom de la communion des saints. C'est ça le soubassement théologique. Quand je dis je crois à la communion des saints, je veux dire je crois à la communion des saints vivants. Donc les saints vivants, c'est nous sur cette terre. Mais c'est aussi les saints du ciel. D'ailleurs, quand on célèbre un saint, on ne célèbre jamais sa date de naissance, vous le savez. La fête d'un saint est toujours la date de sa mort. Pourquoi ? Parce que c'est sa date de naissance au ciel. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'une histoire de vie. Donc, ça veut dire que la foi fondamentale, c'est que le saint est vivant. Donc, lorsque je mets les morts à l'intérieur de la cité, je suis en train de dire qu'il y a une communauté civique des vivants et des morts. Cette communauté civique existe parce que il y a la communion des saints. Sinon, ça ne marche pas. Vous voyez, le christianisme n'est pas fou, en fait. Hein. Il ne dit pas que les vivants doivent vivre au milieu des morts, mais que si les morts sont saints, eh bien, ils ont toute leur place parmi les vivants. C'est une foi grande hein, que de dire cela. Après, évidemment, nous, on peut regarder cela peut-être un petit peu en ricanant ou pas, mais bon. N'empêche que c'est que de ça qu'il s'agit, en fait. Je termine ce soir sur cette question de l'invention des reliques, avec le texte suivant que j'ai mis sur votre feuille, dans le dossier, qui est que le problème est le suivant. Est-ce que par hasard, parfois, on ne se trompe pas ? Ben oui, bien sûr. Bien sûr que parfois, on peut se tromper. Et croire qu'un tombeau est un tombeau d'un martyr alors que c'est pas un martyr. Parce que, vous voyez, le problème véritable, c'est que j'ai aucune transmission. J'ai aucune tradition. Au sens où je me retrouve avec un bonhomme qui est enterré quelque part. Je dis, ah, mais en fait, c'est un martyr. Mais en fait, qu'est-ce que j'en sais? Ou qu'est-ce que je n'en sais pas? Alors, je vous propose simplement, à titre de divertissement, de lire le texte numéro 5, La vie de Saint Martin, par Sulpice Sévère. Alors, Saint Martin, le grand saint français, comme vous savez, donc lui, il fait des miracles de son vivant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Sulpice Sévère nous dit « Je vais maintenant raconter les miracles que Saint Martin fit pendant son épiscopat. » Ah, on retrouve l'église hiérarchique comme lieu de contrôle ou d'authentification. À peu de distance de la ville, donc Tours, non loin du monastère, le monastère de Candé-sur-Tours, se trouvait un endroit que l'on regardait à tort comme le lieu de la sépulture de plusieurs martyrs, inflation, plusieurs martyrs à cet endroit-là, qui y recevaient un culte. Bah oui, puisque s'il y a des martyrs, je peux leur rendre un culte. Car l'érection de l'autel était attribuée aux évêques précédents, Sous-entendu, les évêques précédents Saint-Martin ont manqué de prudence et n'ont permis la construction d'un autel sur une tombe à un an sans avoir rien vérifié du tout, ou en se fiant à ce que les gens racontaient. Ah, c'est donc une histoire de foi. Martin n'ajoutant point foi légèrement à des traditions incertaines, demanda au plus ancien des prêtres et des clercs de lui dire le nom du prétendu saint et l'époque de son martyre. Alors là, j'ai Saint-Martin, se faisant historien. Voyez, c'est on lui raconte un truc, et bien il cherche à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Il demande au plus ancien des prêtres et des clercs de lui dire le nom du prétendu saint et l'époque de son martyre, en disant, bah, après tout, s'il y a une tradition, il y a bien quelqu'un qui va pouvoir me raconter quelque chose. Comme tout à l'heure, Saint Damase, qui connaissait le bourreau de Saint-Pierre et Marcellin. Le problème, c'est que personne n'est capable de lui répondre quoi que ce soit à Saint-Martin. Donc Saint-Martin était fort inquiet à ce sujet, puisque la tradition ne rapportait rien de bien avéré. Ah, que faire? Et alors là, vous avez quelqu'un qui est parfaitement raisonnable. Pendant quelque temps, il s'abstint d'aller à cet endroit. Mais il ne voulut pas porter atteinte à ce culte tant qu'il serait dans l'incertitude, ni l'autoriser de peur de favoriser une superstition. Vous voyez comment ça marche? Je ne veux pas y aller parce que je préfère ignorer l'affaire, parce qu'à la fois, je ne veux pas. Si c'est un vrai martyr et que je dis qu'il ne faut pas y aller, ben je me trompe. D'accord? Dans le même temps, si j'y vais, les gens vont croire qu'il faut y aller. Et si ce n'est pas un vrai martyr, eh ben je les envie en erreur. Très grande prudence de Saint-Martin. Bon, entre parenthèses, c'est la prudence de l'Église devant tous les lieux d'apparition. Hein. C'est exactement le raisonnement de l'Église, par exemple, devant Medjugorje, qui consiste à dire, on nous interdit d'organiser, maintenant ça a changé depuis quelques semaines, mais à l'origine, on nous interdit d'organiser des pèlerinages. Et donc tous les pèlerinages qu'on voit fleurir partout, avec des annonces officielles, sont en réalité illicites. Pourquoi? Parce que on n'est pas sûr de ce qui s'y passe. Et on n'est pas sûr qu'il y ait réellement une apparition. C'est exactement la même chose que fait Saint-Martin. Donc, il est raisonnable. Prenant un jour avec lui quelques-uns des frères, il s'y rendit et se tenant sur le sépulcre, il pria le Seigneur. Alors, après le travail d'historien, qu'est-ce que je fais? Je fais intervenir Dieu par la voie spirituelle. Il pria le Seigneur de lui faire connaître quel homme avait été enterré dans ce lieu et quels pouvaient être ses mérites. Alors, et c'est là que ça devient drôle, il voit se dresser à sa gauche un spectre affreux et terrible. Martin lui ordonne de déclarer qui il est. Alors, vous voyez, là, ça sent pas bon. Hein. Le visage est épouvantable. Et quels sont ses mérites devant le Seigneur? Le spectre se nomme, avoue ses crimes, dit qu'il est un voleur, mis à mort pour ses forfaits et honoré par une erreur populaire, qu'il n'a rien de commun avec les martyrs qui sont dans la gloire, tandis que lui, il est dans les tourments. Donc il est en enfer. Ceux qui étaient présents entendirent cette voix étrange sans voir personne. Martin leur dit alors ce qu'il a vu, ordonne qu'on enlève l'autel et délivre ainsi le peuple de cette erreur et de cette superstition. Saint-Martin de Tours, nous sommes encore à la fin du IVe siècle. Vous voyez? Alors, ne faites pas de nos ancêtres des gens crédules. Saint-Martin n'est pas crédule. Alors, ok, peut-être que nous, on ne raisonnerait pas comme ça, encore que j'en sais rien, parce que finalement, ce n'est pas si mal ce qu'il fait. J'interroge la tradition, je me mets en prière, ce n'est pas complètement absurde, et après, je prends une décision. Ça veut donc dire que cet épisode-là, lui non plus, il n'est pas isolé. C'est qu'on voit fleurir des faux saints, des fausses tombes, des faux martyrs. Ben oui, mais c'est normal. Si vous avez compris la logique de ce que je vous ai raconté, on sait qu'il y a des martyrs et on ne sait pas où ils sont. Donc, inévitablement, vous aurez des fausses tombes. C'est inévitable. Et qui dit fausses tombes dit fausses reliques. Surtout s'il y a des gens qui ne sont pas très prudents. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'il est l'heure. La semaine prochaine, je resterai encore un petit peu encore dans la période ancienne parce que je voudrais passer un petit peu de temps sur le culte des reliques dans l'Antiquité. Donc, 5e, 6e siècle. Comment on fait? À quoi ça sert? Et ça nous permettra d'avoir la continuité avec le Moyen-Âge. Je passerai peut-être. Non, bah, si j'y arriverai, parce qu'il faut, sinon j'arriverai jamais au bout, à quelques éléments sur les trésors des reliques par Saint-Louis. Voilà. Bon, bah, écoutez, bonne soirée à chacun.
Merci à toi. Bonne soirée.
Merci, très bonne soirée.
Merci beaucoup, au revoir.
Allez, au revoir tout le
Merci
monde.
Philippe.